Chers auditeurs, bienvenue à vous pour l'émission de l'Actualiteam sur PFM 99.9. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de Héloïse.
Bonjour.
Jeanne.
Salut.
Sarah.
Salut.
Thomas.
Bonjour.
Julie à la régie.
Bonjour.
Et moi-même, Arthur à l'animation. Alors aujourd'hui, l'équipe et moi-même avons choisi de vous parler des immigrés qui cherchent à passer la frontière mexicaine pour se rendre en Amérique. Alors je laisse Jeanne introduire le sujet qu'elle a éminemment proposé.
Avec l'accord de tout le monde autour de la table, on a décidé de parler des migrants qui arrivent aux États-Unis et du mur que Trump veut mettre en place, puisqu'on trouve que c'est un sujet en adéquation avec ce qui se passe en ce moment. Et c'est important de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui est très grave quand même, de mettre un mur pour empêcher les migrants mexicains, entre autres, mais tous ceux qui sont d'Amérique latine et du Sud, de vouloir se réfugier aux États-Unis et venir y vivre.
L'Actualiteam couvre donc ce sujet éminemment intéressant.
C'est vrai que, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la quantité de personnes qui attendent patiemment de la frontière mexicaine et qui espèrent juste passer de l'autre côté, en fait. Et donc, ils ont plusieurs possibilités pour ça. Soit ils passent par le désert, mais c'est hyper dangereux parce qu'ils peuvent se faire kidnapper. Soit ils passent par le fleuve, mais c'est aussi très, très dangereux parce qu'ils peuvent se noyer.
Ouais, il y avait eu un papa et sa petite fille qui étaient morts. Ouais. Ça avait choqué tout le monde.
Une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux récemment sur le corps d'un père et de sa fille qui a tenté de traverser le fleuve et qui est mort noyé. Et en fait, même si un Mexicain parvient à... Enfin, une personne d'Amérique latine, pardon, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent d'autres pays qui sont très dangereux, instables, à cause des gangs, etc., qui tentent de trouver, de demander l'asile aux États-Unis. Et du coup, même si quelqu'un arrive à passer aux États-Unis, il peut très facilement se faire rejeter, et parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Donc c'est un sujet très compliqué, à la fois pour les gens qui patientent au Mexique et pour les États-Unis qui doivent gérer ça. En plus, bien sûr, Trump veut faire en sorte de réduire la quantité de personnes qui passent de façon illégale. Et ça pose beaucoup de problèmes pour les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine.
Après, je suis d'accord de réduire le nombre de personnes qui passent de façon légale et de les inciter à passer légalement aux États-Unis et tout. Mais je trouve que construire un mur, c'est quand même quelque chose d'assez extrême. C'est pas quelque chose qu'on doit encourager, quoi. Enfin, je suis désolée, mais construire un mur, c'est vraiment une décision qui est nette,
qui est radicale.
On peut plus revenir en arrière, sauf à détruire le mur. Mais bon, c'est quelque chose. Enfin, je trouve que c'est horrible et c'est assez inhumain pour toutes les personnes qui viennent, qui veulent vivre aux États-Unis. On leur met vraiment un mur comme si elles étaient dans un enclos en Amérique du Sud et elles ne peuvent plus passer au-dessus, en fait.
Au-delà du mur en lui-même, le matérialisme du mur, si on voit un petit peu plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter ça comme un message fort de la part des États-Unis vis-à-vis des migrants en leur disant « ne venez pas en Amérique, déjà vous n'aurez pas la possibilité de rentrer dans le territoire américain » et vous ne serez pas reçu convenablement. Parce qu'actuellement, la frontière n'est pas une passoire, c'est certainement l'une des plus mieux protégées au monde, mais actuellement, il y a quand même une proportion de migrants qui parviennent à se rendre sur le territoire américain. Donc est-ce que ce n'est pas donner le message à ces migrants que l'Amérique ne veut pas d'eux ? Non pas, principalement pour les Américains, à cause de la question économique, puisque quand ils arrivent en Amérique, il faut les soigner, les prendre en charge, ça nécessite des moyens financiers et matériels importants. Et puis, au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas la démarche du gouvernement américain aussi de vouloir protéger ces personnes qui cherchent à migrer, de les stopper par ce matérialisme du mur ? Pour pouvoir régler la crise humanitaire qui a lieu dans les pays du Sud directement à la source.
Je ne sais pas si construire un mur permettre à des personnes de mourir en voulant traverser le mur ou de risquer leur vie, c'est les protéger de venir aux États-Unis. Je pense que dans tous les cas, vu ce qui se passe... Ah oui, bien sûr, il faut régler le problème à la source et aider les États d'Amérique du Sud à aller mieux, sortir des crises qui sont en train de se passer et tout. Mais je pense pas que c'est un bon moyen d'empêcher tous ces migrants qui sont là, qui finalement vont rester bloqués au Mexique. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être dans la misère, enfin ça va être encore pire. Je pense que les empêcher de passer aux États-Unis, c'est pas quelque chose d'humanitairement très positif.
Donc pour toi, tu prends le parti du fait que si on fait un mur, ils vont rester à stagner à la frontière. Tu
ne
crois pas que le fait d'avoir le mur, ça va les dissuader d'entreprendre même le voyage ?
Mais là, ils ont déjà construit des parties du mur et pourtant, il y a toujours des populations qui viennent jusqu'au mur pour essayer de passer.
Tu demandes aux gens qui sont là-bas qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils peuvent aller, ils vont dire surtout pas dans leur pays d'origine parce que c'est encore plus dangereux là-bas. Rentrer. Même à la frontière, c'est dangereux parce que voilà, il y a des gens qui sont. C'est hyper instable au niveau social. Il y a. C'est dangereux pour eux, ils peuvent leur arriver plein de choses. Ils dorment dans des tentes, comme nous, on a pu connaître en France au niveau de Calais. Ils n'ont pas de.
Et qu'on connaît toujours.
Ouais, on peut prendre le parallèle avec Calais, ça a été fermé, il n'y a plus. Il y a une frontière qui est pas. Qui est la mer, mais on ne peut plus passer en Angleterre quand on est un migrant. Ou alors, faut avoir des autorisations et tout. Et pourtant, il y a toujours autant de migrants qui remontent dans le nord de la France, qui vont jusqu'à Calais, qui essayent de passer. Ça n'a rien changé. Le fait qu'ils aient empêché, qu'ils aient coupé ça. Et une mer, c'est encore plus dur à passer qu'un mur.
Non, mais pour moi, la proportion de migrants qui veulent aller en Angleterre en passant par Calais, du fait de cette frontière maritime naturelle, est moins importante que la proportion aux États-Unis de migrants qui souhaitent s'y rendre.
Oui, mais par rapport à la proportion de migrants qui voulaient aller de base en Angleterre quand c'était encore possible, elle n'a pas tellement diminué, je pense, tu vois. Je pense que construire un mur, c'est pas du tout une solution. Je pense qu'il faut les aider peut-être militairement dans le dernier des recours, socialement, tu vois.
L'exemple qu'on prend de l'Angleterre, c'est pas un bon exemple puisqu'on a une frontière naturelle et là on parle d'une frontière matérielle qui va être installée volontairement.
Oui, mais la frontière matérielle, donc, du coup,
On peut pas comparer cette frontière matérielle, l'impact qu'elle va avoir en regardant l'exemple actuel de la frontière maritime, pour la simple et bonne raison qu'elle a toujours existé, cette frontière maritime.
Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire, je sais pas, des bateaux, les ferries, ils pourraient laisser passer les migrants par cette frontière. S'ils voulaient, l'Angleterre, elle a fermé ses frontières, l'Angleterre. C'est ce que je veux dire, c'est un peu pareil, les États-Unis veulent faire comme l'Angleterre, ils veulent fermer leurs frontières. Oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est le même principe.
Et mais du coup, on peut pas comparer en proportion.
Oui, mais bon...
Toujours est-il que, quelle que soit la solution trouvée pour l'instant, enfin, quelles que soient les solutions imaginées par Trump, en fait, par les États-Unis, ça règle pas du tout le problème. Ils veulent se fermer sur eux-mêmes, dire c'est notre pays, il y a personne qui vient. Mais la quantité de personnes qui attendent dans des conditions déplorables est juste folle. J'avais entendu l'histoire d'une personne qui a fui son pays parce que son fils... risquer la mort à cause des gangs de leur pays d'origine et que la mère en question, la dame, était forcée par un autre homme d'avoir des relations, de devenir sa femme. Enfin, les conditions des pays d'origine d'Amérique latine sont très dangereuses et c'est pour ça, comme tu dis, il faut régler le problème à la source. Si Trump veut faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui veulent aller aux États-Unis, il faut aider ces pays. Comme les États-Unis ont aidé la France, bon, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais aider la France après les guerres. Enfin, ils en sont capables. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est inhumain. Ouais.
Ce qu'il faut prendre en compte, ton exemple est bon, l'assistance des Américains à l'après-guerre, notamment pour les pays d'Europe, c'est que de ça, ils ont eu des intérêts. Ils n'auront aucun intérêt à aller financer des solutions dans les pays du Sud pour enrayer l'effet migratoire. C'est ça le problème aussi. Et pour moi, le fait de construire un mur quelque part, ils vont s'isoler. Enfin, s'isoler encore que non, c'est discutable parce que quand on voit le type de population très peu qualifiée qui souhaite migrer, ça va pas nécessairement impacter leur économie.
Il n'y a pas que des personnes peu qualifiées, il y a énormément de personnes qui sont qualifiées qui veulent monter aux États-Unis parce que elles risquent leur vie en Amérique du Sud.
Justement, en général, ces personnes qui sont qualifiées, qui constituent quand même l'élite de ce genre de pays très peu développé, ils ont moins de mal à s'intégrer à la société américaine. Ils ont des permis spéciaux pour pouvoir intégrer la société américaine.
N'empêche qu'on n'a pas encore de solution, j'ai l'impression. Pour quelle que soit la classe des personnes, enfin quelle que soit la qualification des personnes, il faut les aider quand même, je veux dire.
Ah oui, non, je ne suis pas du tout en train de comparer, hein. Je me base juste sur des éléments factuels. La société américaine en tant que telle ne souhaite pas avoir des immigrés
C'est l'Amérique de Trump, hein, qui ne veut pas avoir des immigrés. Je suis sûre qu'il y a énormément de.
Il y a des Américains qui vont aider les immigrés. Qui vont essayer de les aider parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait Trump. Et bien sûr, voilà, donc c'est le président, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide des solutions et des choses à apporter dans son pays, mais tout le monde n'est pas d'accord, comme partout d'ailleurs.
Mais c'est vrai que là, on parle du cas américain, mais on peut se baser notamment sur le cas européen, pardon. Et nous-mêmes, pays européens, nous-mêmes la France, on constate l'arrivée progressive des partis extrémistes qui disent que... Ouais. Enfin, qui disent... qui porte la voix de la population quand même. La population ne souhaite pas voir une propension trop importante arriver d'immigrer sur le territoire national. Et puis quelque part, c'est compréhensible parce que ça nécessite. Enfin, c'est compréhensible. C'est pas infaisable, mais ça pose un certain nombre de problématiques, notamment et principalement l'intégration. Et on a de gros soucis d'intégration. J'ai moi-même mon grand-père qui a été bénévole pendant un an à la Croix-Rouge pour donner des cours de français aux immigrés qui souhaitaient intégrer la région. Et il y a un problème d'assiduité, il y a un problème de volonté tout court des personnes pour s'intégrer. La plus grande partie, s'ils viennent en France, c'est pour pouvoir bénéficier d'un système économique, social avantageux qu'ils n'ont pas dans leur pays. Et ce n'est pas un choix voulu de venir en France. C'est au regard de la situation géographique, la France reste un pays relativement accessible, avec des frontières ouvertes dans le cadre de l'Europe.
Bah bien sûr, et de toute façon, la France, c'est quand même une... Enfin, il y a pas mal de migrants qui restent en France, mais c'est aussi une énorme plateforme tournante pour après aller un peu partout en Europe, et même parfois aux États-Unis. Enfin, on le voit bien, pourquoi il y a autant de personnes à Calais? C'est parce que pour eux, le but, c'est pas la France, c'est l'Angleterre ou c'est d'autres pays. C'est pas là qu'ils veulent aller.
Et la France aussi... Sont des statistiques, c'est vrai que c'est dur de s'exprimer, mais d'une manière générale, la France, comme pour employer ton expression, est une plaque tournante pour la simple et bonne raison que nous avons le système le plus avantageux au niveau de la santé dans la prise en charge des migrants. D'où la volonté d'Emmanuel Macron actuellement de réformer le système actuel, parce qu'on assiste à du tourisme médical. Les gens viennent se faire soigner en France, parce que dans les autres pays européens, ils sont plus fermés, et après, ils se dispatchent dans d'autres pays.
Tu crois vraiment que les migrants, quand ils quittent leur pays d'Afrique ou leur village,
non,
ou
la première
endroits,
motivation n'est pas forcément le motif médical.
Tu crois vraiment qu'ils savent
toi.
Que quand ils vont aller en France, ils vont avoir plus de droits que s'ils vont en Allemagne ou s'ils vont en Belgique?
C'est certain.
Moi, je suis pas bien sûr que je saurais ça.
C'est des systèmes communautaires. Avec des engrenages importants, dans le sens où les personnes déjà actuellement sur le territoire national vont communiquer forcément à leurs familles qui parfois sont restées dans leur pays natal. Que France,
oui, mais je pense pas que la première raison pour laquelle ils vont en France, c'est parce qu'ils savent qu'ils pourront être soignés.
Non, c'est ce que je te disais, je suis d'accord avec toi, c'est subalterne principalement, c'est la guerre, les conditions de vie.
Ça, faut pas l'oublier, ouais.
Mais la guerre, les conditions de vie, bah oui, la santé est un facteur aussi dans ces pays, il n'y a pas le système de santé. Les infrastructures qu'on a en France.
Oui, il ne fuit pas, comme tu dis, que le côté sanitaire. Il fuit énormément tous les dangers qu'il y a là-bas. Je veux dire, la violence, la guerre qui règne là-bas, dans certains pays. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi. C'est normal que des populations ne veulent pas trop d'émigrer au sein du territoire national. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans un pays qui est en paix, même si voilà, il y a eu des moments où c'est un peu compliqué en France avec les gilets jaunes et tout, mais on est dans un pays où on peut vivre bien, même si c'est pas parfait.
Ouais,
et il faut se dire que tout le monde n'a pas cette chance-là et être ouvert, tout simplement. Enfin, même si c'est dur à gérer, on peut pas accueillir tout le monde. Il faudrait en fait que ça soit une volonté européenne, même mondiale.
La volonté européenne existe
on
déjà
est censé,
actuellement.
Ouais,
c'est une
on
volonté mondiale qui manque, c'est ça.
Tous les pays qui le peuvent se répartissent correctement le nombre de migrants, il y a possibilité. Après, c'est sûr, plus on en accepte, plus on aura. Ça, c'est
le problème de la volonté mondiale, c'est que nous, en Europe, on récupère toutes les personnes qui viennent d'Afrique et qui émigrent à cause de leurs conditions de vie, à cause des guerres, à cause de ce qu'elles subissent là-bas. Et on ne peut pas dire aux États-Unis prenez ça alors qu'ils doivent déjà s'occuper de toutes les personnes d'Amérique du Sud. Enfin, c'est compliqué. Et même les pays riches d'Asie ont des migrants autour de l'Asie. Donc je pense que c'est un peu dur de dire vous devez vous occuper. C'est dur de répartir dans le monde.
J'ai qu'il ne pas s'occuper des gens d'Amérique latine.
Ouais, c'est ça.
Après, on a un peu une responsabilité aussi. C'est nous qui avons appauvri ces pays-là. Et c'est un peu le problème des guerres.
Exactement.
C'est notre fait, carrément de notre faute si tous ces pays-là sont aussi pauvres et s'il y a autant de problèmes dans ces pays-là.
Pour les aider, quoi.
Tout à fait. Et j'allais vous proposer justement d'aller plus loin. Au-delà de ces quotas d'immigrés qui souhaitent se répartir volontairement ou involontairement dans les pays plus développés, c'est bien un problème de ressources, un problème de moyens que les pays du Sud sont fortement impactés par ce genre de problématiques qui sont directement liées à l'exploitation part de la colonisation, d'un point de vue historique, effectuée d'ailleurs principalement par les Européens.
Mais c'est dingue parce que ces pays-là, c'est les pays qui ont le plus de ressources entre tous les pays du monde. C'est les territoires où il y a le plus de minerais, de choses comme ça. Et pourtant, c'est les pays les plus pauvres. Donc ça montre bien que l'Europe a totalement colonisé et exploité ces pays-là et que c'est à cause de nous qu'ils sont si pauvres et qu'il y a autant de problèmes.
Et on a beau dire que la colonisation n'existe plus, il y a quand même encore beaucoup de corruption dans les pays du Sud, et il y a encore des personnes qui sont postées dans les postes sensibles pour pouvoir amener justement à l'Europe, du point de vue des ressources, pétrole, tout ça, ce qu'elle a besoin. Et donc, effectivement, les ressources du pays ne profitent pas financièrement à la population. Par contre, on peut prendre pour exemple les pays de l'Arabie Saoudite. Eux ont su quand même prendre les choses en main et, par exemple, grâce au pétrole, financer leur économie. Bon, le système est loin d'être terrible, mais ils ont su quand même profiter eux-mêmes de leurs ressources. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une petite pause musicale, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission de l'Actuality Team sur PFM 99.9. We started out as friends in the Lower East. Did a couple drugs at the house parties. Late nights and taxi cabs. Wish I could have them back. Cause there's a lot of things that I never said. Now you're with somebody else in a different bed. You're happy I could see. And that's so hard for me. When you walk in the bar with someone holding hands, introduce me to her, say I'm just an old friend. And you ask how I've been, I say I'm doing fine, but I'm lying. I take another shot, need the Novocaine. With shit went on my heart, way it numbs my brain. But it's our love, I don't feel it, but it's our love. That look in your eyes, do it right in front of me, kinda makes me wanna die. But it's all love, I hate the feeling, but it's all love. Should we forget about the past, is that how you cope? Should we drink a little more of that rum and coke? I don't know how to be, when she looks a bit like me. When you walk in the bar with someone holding hands, introduce me to her, say I'm just an old friend. And you ask how I've been, I say I'm doing fine, but I'm fucking lying. I take another shot, need the Novocaine. With shit went on my heart, way it numbs my brain. But it's our love, I don't feel it, but it's our love. The way you kiss on her neck with that look in your eyes, do it right in front of me, kinda makes me wanna die. But it's all love, hate the feeling, but it's all love. So I take another shot, Novocaine. Wish it went on my heart, not my brain. But it's all love. The way you kiss on her neck with that look in your eyes. Do it right in front of me, it kinda makes me wanna die. But it's all love. I hate the feeling, but it's all love. Oh, no, 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 no. It's all love, baby. You know it's all love. It's all love. It's all love. Et on se retrouve pour cette seconde partie de l'actualité. Nous débattons, pour rappel, de l'immigration en général. Nous étions partis du cas concret de l'immigration vers les États-Unis et nous étions centrés précédemment, sur le cas européen. Les migrants, c'est comme les éoliennes, dit Marine Le Pen très récemment lors d'une matinale radio. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir par rapport à à cette phrase très percutante et qui mérite quand même d'être débattue. Alors, je souhaiterais quand même préciser à nos auditeurs que les chroniqueurs sont déjà tous morts de rire à l'annonce de cette phrase, mais elle est intéressante quand même. C'est une vision que Marine Le Pen
propage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le sens de la
les
phrase?
Les migrants, c'est comme des éoliennes, ça.
Tout à fait. Alors, elle a précisé un peu son propos, hein. Ouais. Elle a lâché la phrase.
Peux-tu préciser le propos?
Je vais vous recontextualiser le propos. Alors, elle a effectivement sorti cette phrase et ensuite elle s'est expliquée. Les éoliennes. Demain, je vous dis, on va vous mettre une éolienne dans votre jardin. C'est quand même assez imposant, une éolienne.
Ah bah oui.
Et même dans les communes rurales, beaucoup de personnes ne souhaitent pas avoir d'éolienne pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que ça dégrade le paysage. Donc il y a effectivement un problème autour de ces éoliennes qui est l'acceptation dans le paysage et dans les communes. Donc personne n'en veut en fin de compte de ces éoliennes. Tout le monde, enfin la plupart des personnes sont pour puisque c'est dans le cadre des énergies renouvelables. Mais lorsqu'il s'agit d'en installer une, on se rend compte qu'on a beaucoup de réfractaires. Et donc elle compare ça aux immigrés qui, au niveau de la population, la plupart des personnes se déclarent comme pour les accueillir, mais lorsqu'il s'agit de les accueillir à proximité de leur espace de vie, tout de suite, beaucoup de personnes déchantent. Et en général, ce sont plutôt, quand même, il faut le dire, les citadins qui s'expriment en faveur de cela, et c'est souvent les communes rurales qui se retrouvent avec des centres d'immigrés à accepter.
Elle a pas
et
tort.
Ça pose un certain nombre de problématiques.
Elle a pas tort.
Notamment d'acceptation.
Bah, pour une fois, je suis pas totalement contre une opinion de Marine Le Pen,
mais
ce qui est rare.
Tout à fait, puisque ce qu'elle dit est très pragmatique, très imagé, certes, mais...
Après, les éoliennes, on n'en veut pas, on râle, mais on en a quand même un peu partout, parce que ça nous sert quand même, les éoliennes. Enfin, je veux dire, l'énergie électrique, c'est un peu la base, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, les migrants, c'est un peu pareil. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie de les avoir comme voisins, mais bon, s'ils sont là, enfin, je veux dire, il faut les accepter, il faut vivre avec, parce qu'ils peuvent aussi apporter à la France, et ça peut être un plus, ça peut être de la culture en plus, des connaissances en plus, enfin... Je veux dire...
C'est pas comme ça que je le vois les Français, je pense, c'est ça le problème.
Ouais, mais pour moi, les migrants, c'est pas juste un problème à régler, c'est aussi... Enfin, je veux dire, je sais pas, nous, quand il y a énormément d'Européens qui ont émigré vers les États-Unis, ils ont apporté plein de connaissances aux États-Unis, quand il y a eu le problème avec les Irlandais...
Il faut quand même recontextualiser, on était quand même avec des indigènes aux États-Unis.
Non, là, je parle plus pour les Irlandais qui ont... Tu vois, quand il y a les problèmes des pommes de terre et tout, qui ont colonisé... Mais si, il y a...
Oui, en 1800.
Voilà, en 1800, ouais. Merci Thomas. Donc oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose à la France et que c'est pas que du négatif, les migrants, pour moi. Enfin, c'est des personnes dont on doit s'occuper, qui au début doivent nous demander plus d'argent, plus de temps, mais qui au final, peut-être que c'est pas que mauvais, peut-être que ça peut nous apporter des choses aussi.
Si les migrants arrivent à s'intégrer, comme l'ont fait les Irlandais aux États-Unis, oui, ça peut apporter des choses super. Mais pour l'instant, là, au point où on en est, j'ai pas l'impression que les Français le voient comme ça et que du coup, les réactions de la population soient...
Est-ce qui est plus inquiétant? Est-ce qui explique d'ailleurs la montée en puissance de... À part ton Sarah, tu souhaites t'exprimer? Non. Ce qui est inquiétant, et ce qui est factuel d'ailleurs, c'est qu'on assiste à la montée en puissance de l'extrême droite, ouais. Et moi je considère que c'est fonction de l'arrivée toujours plus importante d'immigrés. On va assister, et on est en train d'assister à la première partie de la pire crise migratoire mondiale qu'on n'a jamais connue. Là actuellement, c'est effectivement dans le cadre de conflits, niveau de vie, etc. Mais après, ça va se solder également par des problèmes de nutrition. Je pense à l'eau notamment, dans le cas du réchauffement climatique. Et là, on va vraiment avoir énormément de populations qui vont venir migrer vers les pays développés pour pouvoir nourrir et puis survivre.
Simplement.
Et ça aussi, ça pose une certaine problématique.
Thomas, quelque chose à dire à propos de ce sujet?
Si on pouvait recentrer un peu le débat sur les USA, c'est sûr qu'il y a... Un autre facteur à prendre en compte, c'est que l'Amérique latine, c'est un endroit où il y a beaucoup de narcotrafiquants. Mm-hmm. La drogue, c'est un produit assez courant là-bas. Et je pense que
il y a une économie qui est fondée là-dessus.
Il y a une volonté de, ouais, de freiner un peu ce marché via le mur aux États-Unis, du coup.
Ce qui fait beaucoup de causes, enfin, beaucoup de, oui, de causes de la migration. Et ce qui fait que les pays qui la subissent, on va dire, ont encore plus de mal à trouver des solutions. Parce qu'elle a déjà des problèmes au sein du pays elle-même. Et gérer des gens qui viennent de l'extérieur, ça devient compliqué. Comme tu dis, oui, c'est que le début au final. C'est que le début.
Il faudrait aider les pays dans le besoin à se gérer eux-mêmes.
En quelque sorte. Je pense que la solution, c'est à court terme d'aider les migrants qui viennent parce qu'on ne va pas les laisser sur le bord de la route. Mais à long terme, c'est aussi d'aller dans les pays qui ont des problèmes, de les aider, de leur apporter des solutions qui soient indépendants financièrement, qui puissent se gérer toutes seules, qu'ils aient une vraie constitution pour qu'au final, on n'ait plus autant de migrants. Parce qu'on râle, on dit ouais, il y a des migrants, mais si on n'aide pas les pays, enfin, ça va pas changer, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi aider ces pays-là à se construire.
Après, je peux prendre comme exemple le cartel de Sinaloa. Même la police locale, elles n'arrivent pas à le gérer, quoi.
Ouais.
Donc, un coup de main de l'armée américaine. Après, politiquement, ça pourrait être mal vu aussi.
Ah, l'armée américaine un pays étranger qui n'est pas en guerre, c'est bof quand même. Hein.
C'est sûr. Mais bon, ils ont su aider des pays quand il fallait, et là, il le faut.
Mais est-ce que ces pays ont envie d'être aidés? Parce que des fois, les dirigeants qui sont placés au pouvoir sont justement en accord avec ce qui se passe.
Ça, après, c'est au peuple aussi de dire stop et on va élire des gens. Enfin, là, en ce moment, on le voit, en Amérique latine, il y a plein de révolutions en ce moment populaire. Il y en a un peu partout. Et je pense que c'est aussi le peuple qui en a marre et qui dit stop, on veut que ça s'arrête parce qu'on n'en peut plus, quoi.
À Cuba, même ailleurs.
Ouais, partout.
Il y a beaucoup de problèmes de ce type. Ouais.
On va peut-être terminer sur une perspective futuriste, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, le risque, je pense, plus ou moins long terme, c'est l'arrivée d'un pouvoir mondialisé qui gouvernera l'ensemble, enfin la plupart des pays progressivement, et qui s'occupera de la répartition des richesses, ce genre de choses. Donc le risque aussi, c'est que y a une polarisation des plus riches vers le nord, et puis qu'il y ait une politique de refermement.
Ça, c'est un peu une utopie, ça.
Moi, je suis pas. Je pense pas que ça arrivera un jour.
Non, je pense pas non plus. Il y a trop de divergences.
Ouais, à mon avis, c'est pas.
Juste au niveau économique, regarder toutes les monnaies.
Mais regarde, juste à l'échelle actuelle, quand tu vois la montée en puissance de l'extrême droite dans l'ensemble de l'Europe, en Amérique du Nord, t'as déjà quand même une partie nord qui est en train de se dessiner comme extrémiste.
Tu vois bien où ça mène l'Europe. Les Anglais sont en train de partir. Ça a peut-être donné envie à certains de partir aussi. Je veux dire. Très compliqué
je pense que les États comme ça, peut-être qu'un jour ça arrivera. Je pense même pas que ça arrivera, mais si un jour ça arrive, je pense que cet État, désolé pour l'expression, mais va se casser la gueule assez vite parce que ça marche jamais. Un pays comme ça aussi énorme, impossible.
Je dis pas que ça se fera dans la paix,
c'est certain. Un esprit nationaliste où les peuples diront non, moi je suis français, ou moi je suis allemand, ou moi je suis belge, j'ai pas envie d'être.
Oui, mais tu as c'est un certain nombre de personnes, alors après on considère que c'est une théorie ou non, mais qui disent que les personnes qui sont actuellement au pouvoir dans les pays sont placées par les grands dirigeants d'entreprise, par.
C'est une prof de philo, ça.
Entre autres, mais je pense que ça vaut quand même le coup de considérer son propos et de ne pas le réfuter obligatoirement, même si on peut le considérer comme farfelu, chacun son opinion. Mais moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, je me base sur l'ensemble des choses que l'on peut dire à ce propos. Et ces personnes qui placent ces dirigeants, progressivement, est-ce qu'il n'y a pas l'envie justement d'une gouvernance mondialisée?
C'est une opinion qui peut exister, on la croit, on ne la croit pas, moi j'y crois pas, après je comprends que certains puissent y croire, mais ce n'est pas quelque chose que je pense possible.
Après c'est vrai qu'on parle, et je conclurai là-dessus si personne ne souhaite rajouter après de mots, c'est des choses très complexes et on n'a pas forcément les éléments nécessaires pour pouvoir s'exprimer, réfuter, analyser, et on est un petit peu dans l'hypothétique quand même.
C'est un peu compliqué à 17 ans de parler de choses aussi compliquées que des politiques secrètes du
monde. Et c'est tout un apprentissage.
Il y a trop de facteurs.
Ouais.
Et c'est tout un apprentissage, rien que là, de débattre. Et par ailleurs, nous faisons du recrutement et nous vous invitons à nous contacter à l'adresse actualiteam.radio@gmail.com si vous souhaitez nous rejoindre l'équipe, Nous enregistrons une fois par semaine et nous recrutons. Voilà, par ailleurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @actualityteam pour l'Instagram, et vous tapez également dans Facebook, dans la barre de recherche actualityteam, vous tomberez dessus sans problème. Nous avons mis en place un dispositif assez important pour pouvoir couvrir nos enregistrements. Vous savez qu'on n'est pas en direct, malheureusement, mais c'est déjà très bien d'être en différé à enregistrer. Et pour pouvoir vous permettre de nous voir, de voir les personnes qui sont derrière le micro, nous rediffusons nos débats sur Instagram et vous pouvez les consulter gratuitement en ligne pour le plaisir. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ?
C'était parfait.
C'était parfait, on est d'accord. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débats. Nous vous remercions pour votre fidélité. C'était l'Actuality Team sur PFM 99.9. Au revoir.
Salut.